Chères auditrices et auditeurs, je vous sollicite aujourd'hui pour trois choses importantes. Et je vous promets, je vais être rapide. La première, j'ai lancé un sondage pour mieux vous connaître et faire évoluer mon travail. Si vous avez 5 minutes, cela m'aiderait énormément que vous y répondiez. Le lien est en description des derniers épisodes du podcast. Deuxième point, gagner ma vie avec le podcast est un gros challenge en ce moment. Pourtant, vous êtes de plus en plus nombreux ici. Alors si vous avez des contacts d'entreprises ou de fondations dans l'enfance, dans l'éducation, dans l'enseignement, dans la transmission, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée en cliquant par exemple sur « Suivre » sur Apple Podcast ou « S'abonner » sur Spotify. Cela m'aide beaucoup à remonter dans les fameux algorithmes des plateformes. En tout cas, je tenais à vous remercier infiniment d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. À très bientôt. Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi, et Sylvie Descleb pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultesdedemain.com. Comment mieux comprendre le monde à travers le regard des enfants ? C'est un sujet si complexe, celui de comprendre les différences entre les enfants et les adultes, d'un point de vue psychologique, social, émotionnel, etc. Et pourtant, si on avait une meilleure compréhension de ces différences, le poids de l'éducation qui repose sur les épaules des adultes serait bien moins lourd. On a parlé des émotions, de la punition, des fausses croyances, mais de bien d'autres éléments qui différencient tant les adultes des enfants. J'ai adoré cet épisode. J'espère que ce sera pareil pour vous. Coucou Héloïse.
Salut Stéphanie.
Je crois que je n'ai plus besoin de te présenter, tant ta voix est écoutée sur les sujets d'éducation et de parentalité. Tu es psy, conférencière, auteure et surtout une militante active pour défendre les droits des enfants. Je t'avais d'ailleurs invitée dans le podcast pour parler de la fratrie, c'est l'épisode 132. Et aujourd'hui, on parle d'un tout autre sujet, puisqu'il s'agit de comprendre comment les enfants se représentent le monde et ainsi ce qui les différencie des adultes. Tu as d'ailleurs écrit un roman graphique magnifique qui s'appelle « Ma vie d'enfant » pour comprendre les enfants entre 3 et 10 ans. Et pourquoi est-ce qu'on oppose autant le monde des adultes et celui des enfants ?
Alors en fait, on l'oppose nous-mêmes déjà dans la recherche. En fait, on l'oppose pour différentes raisons. Alors c'est pas qu'on les oppose, c'est plutôt qu'ils sont assez différents, ils se complètent, mais leur mode de pensée, leur mode d'intuition, leur raisonnement est très différent. Entre les adultes et les enfants. Pourquoi ? Parce que déjà, il faut savoir que l'enfant, c'est un être qui est immature et dont les fonctions cognitives, les compétences cognitives, la compréhension du monde, la compréhension des autres, va évoluer tout au long de sa vie et arriver à maturité à l'âge adulte. Donc en fait, alors effectivement, d'un côté, ils sont opposés, mais ils sont aussi, du coup, très très différents. Et en fait, on peut affirmer aujourd'hui dans la recherche que les enfants ne pensent pas totalement comme les adultes. Ils ont vraiment un mode de pensée différent.
Qu'est-ce que tu vois comme différence principale, notamment en termes de mode de pensée ?
Alors déjà, je vois vraiment des intuitions, des intentions différentes. Par exemple, ce qui est important de voir au quotidien, c'est que quand on voit un comportement d'un enfant, imaginons, je ne sais pas, un enfant qui sourit alors qu'on le gronde, on va dire, ben voilà, il me provoque. Comme si le jeune enfant, en bas âge, avait l'intention, la volonté de provoquer l'adulte. Et ce qui est intéressant de voir au contraire, c'est que, alors des fois, effectivement, s'il est plus âgé, ça peut être de la provocation, bien sûr, mais on peut aussi voir qu'un enfant qui est face à un adulte en colère, c'est une menace qu'il vit, parce qu'un adulte en colère, c'est menaçant, ça lui fait peur, donc il va vivre du stress, et on peut voir en fait que l'un des symptômes du stress chez un enfant face à un adulte en colère, ça peut être le sourire. Donc ce comportement prosocial qui va spontanément mettre en avant, pour venir désamorcer la colère et réamorcer un lien avec l'interlocuteur. En fait, finalement, on va mettre des intentions dans la tête des enfants comme s'ils fonctionnaient avec un cerveau d'adulte de 30, 40 ou 50 ans. Donc, on passe notre temps en fait, à surinterpréter leur comportement comme si c'était Robert, 45 ans, qu'on avait en face de nous, alors que c'est, je sais pas, Mathéo, 5 ans. les intentions sont différentes, la compréhension d'autrui est différente. Ils vont pas forcément comprendre nos pensées, nos raisonnements. Ils vont pas forcément anticiper nos raisonnements comme nous, on pourrait le faire avec des gens de notre âge, par exemple. Donc, il y a vraiment tout un monde différent. Et aussi la compréhension voilà, du second degré, la compréhension de l'ironie. Voilà. C'est vraiment tout ça, c'est très évolutif, en fait. C'est pas on-off, c'est juste que c'est en maturation et c'est évolutif. Et ça demande beaucoup de compétences.
Est-ce que tu penses que c'est le rôle des parents de comprendre l'ensemble de ces compétences qui diffèrent entre un adulte et un enfant ?
Alors, je pense qu'en tant que parent, c'est très, très, très utile de s'informer sur ces sujets-là. Alors, c'est pas une obligation. Bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. Chacun est intéressé par les domaines d'expertise qu'il souhaite, qu'il intéresse. Mais j'en pense que quand on est parent et quand on s'informe sur ces sujets-là, la vie est beaucoup plus facile, en fait. La vie est beaucoup plus simple. Pourquoi ? Parce qu'on va moins surinterpréter les comportements de nos enfants. On va moins, du coup, avoir d'attentes. Mais des fois irréalisables, idéalistes par rapport à leur comportement. Enfin, des fois, quand on pense que les enfants pensent comme nous, ce qu'on appelle un peu l'illusion de la pensée commune, on va avoir à leur égard des attentes, mais des fois vraiment irréalisables. On va attendre d'eux qu'ils se comportent comme un adulte, un repas de famille, on va attendre d'eux qu'ils dorment comme un adulte, on va attendre d'eux qu'ils se calment comme un adulte, quand ils sont en colère, sachant que nous, adultes, on se calme pas non plus très bien quand on est en colère, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va avoir des attentes vraiment importantes. Donc, en tant que parent, je pense vraiment, vraiment, enfin, moi, ça m'aide en tant que maman, parce que par ailleurs, j'ai des enfants aussi en bas âge, ça aide vraiment de savoir comment les enfants fonctionnent dans les grandes lignes, et du coup, d'avoir un quotidien avec plus de tolérance. Alors, c'est pas du laxisme, mais l'idée, en fait, c'est qu'on sait, dans les recherches en plus, que plus la parentalité gagne en lâcher prise, moins on a de perfectionnisme et moins on a d'attentes comme ça précises à l'égard des comportements de nos enfants, moins on est aussi à risque de burn-out parental, moins on se met de pression et plus on perd la parentalité. Donc, pour moi, à mon sens, c'est vraiment plus de tolérance, plus de lâcher prise à l'égard de l'enfant. Pas trop non plus, il y a un cadre à respecter, mais plus de marge de manœuvre et pour que tout le monde vive mieux, en fait. Parce que la parentalité, c'est un exercice de jonglage entre les besoins des parents et ceux des enfants.
Comment on s'informe à ce sujet ?
Alors, pour s'informer sur comment fonctionne son enfant, c'est très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, dans les médias, aujourd'hui, dans les livres qui traitent de l'éducation, on a pléthore de livres, mais on a aussi pléthore de styles, de ressources théoriques. Et clairement, on n'a pas toujours accès, je trouve aujourd'hui, du moins en France, hein, c'est le cas de notre pays, alors je pense que c'est pas aussi en Belgique qu'en Suisse, mais on n'a pas assez accès aux informations scientifiques, donc cette validation qui découle de certaines rigueurs méthodologiques et scientifiques sur la psychique, en fait, sur le raisonnement de nos enfants et le fonctionnement de nos enfants. Donc, c'est vrai qu'en tant que parent, c'est un peu difficile des fois de s'informer de manière efficace, en fait, c'est sûr. Et on commence à s'informer, bah, je pense, c'est en ciblant parfois des auteurs qui ont une formation scientifique en psychologie de l'enfant. C'est, je pense, une première manière de filtrer peut-être ce qui nous parvient comme information. On a vraiment des idées reçues dans tous les sens, en fait, dans tous les...
Bah ouais, c'est ça. Voilà. C'est toute la difficulté. Et qu'est-ce que tu penses des neurosciences ? Est-ce que tu penses que c'est un thème qu'on doit creuser pour mieux comprendre ses enfants ?
Alors, c'est vrai que souvent, on parle beaucoup des neurosciences en premier plan, comme si elles venaient nourrir de manière importante l'éducation. Alors oui, les neurosciences nous aident à mieux comprendre notre enfant. Enfin, de manière générale, elles nous aident à mieux comprendre l'être humain, hein, parce que plus on comprend son cerveau et le lien avec son comportement, bah, plus on a une image différente du comportement d'autrui. Mais en fait, il faut savoir que, contrairement aux apparences et contrairement un peu à ce qu'on peut voir dans les médias aujourd'hui, les neurosciences ont très peu apporté à l'éducation par rapport à la psychologie scientifique, c'est-à-dire tout ce que la psychologie, l'éducation, le comportementalisme, la psychologie du développement, même la psychologie sociale, expérimentale. Donc il y a plein, enfin la psychologie scientifique en tant que telle a énormément de sous-compartiments, de courants qui ont énormément apporté en fait à l'éducation. Donc finalement c'est que souvent on résume la science d'éducation aux neurosciences, alors que c'est vraiment une toute petite partie minime de l'éducation.
Est-ce que tu aurais un exemple justement de l'une de ces avancées notables d'un point de vue éducatif qui a été permis par la psychologie de l'enfant ?
Alors en fait, il y en a plein, mais enfin, ce que je trouve l'un des plus grands, parce qu'en même temps, c'est mon champ d'expertise, c'est en psychologie du développement, donc vraiment, je prêche ma propre paroisse, mais il y en a plein d'autres. Hein. Mais par exemple, un avancé intéressant, c'est voir l'évolution, par exemple, de la théorie de l'esprit chez l'enfant. Alors, la théorie de l'esprit, ça parle qu'aux puristes de la psychologie du développement. En fait, c'est la capacité de l'enfant à attribuer à l'autre, à l'adulte, des états mentaux, des croyances, des raisonnements, des envies, en gros, différents des siens. C'est une capacité de l'enfant, comment dire, vulgairement, à se décentrer, à comprendre comment l'autre pense et attribuer à l'autre des pensées, tu vois, différentes des siennes. En fait, il se décentre. Et en fait, sans doute, avant, on pensait que l'enfant, on pensait plus qu'il était un mini-adulte, donc il se décentrait facilement, rapidement, sans doute, enfin voilà, on se posait même pas la question. Je pense qu'on se posait pas la question. Maintenant, en fait, on voit avec les recherches, mais ce ne sont pas récentes, hein, c'est des recherches quand même assez anciennes, dans les années fin du 20e, début du 21e, elles se peaufinent au fur et à mesure que les recherches avancent, mais on voit que cette théorie de l'esprit, donc cette capacité de l'enfant à se décentrer, elle émerge dès la naissance, bien sûr, mais elle n'est pas à maturité avant l'âge de 4-5 ans environ. Beaucoup plus tard qu'on pourrait le penser. Même la capacité à manipuler volontairement, consciemment, un adulte, on pensait que c'était bien avant. Des fois, il y a des adultes qui disent « Oui, mon bébé me manipule. » Ben non, parce qu'en fait, on voit que cette capacité-là, elle nécessite une base de développement qu'on appelle cognitivo-social minimum, qui est en gros atteint vers 6-7 ans. Donc, en fait, finalement, ça, c'est des chiffres qui sont vraiment à la louche. On voit que c'est très évolutif. On voit que ça varie beaucoup d'un enfant à l'autre. Mais néanmoins, on voit que toutes ces compétences complexes qu'on attribue à l'enfant avant super tôt, puisque tu disais, c'est un mini Robert 45 ans, même s'il a un an et qu'il s'appelle Mathéo, on va voir en fait, qu'elles sont beaucoup plus lentes et beaucoup plus évoluées que prévues, en fait. Donc ça change vraiment toute la dynamique par rapport à l'enfant et à l'adulte, et sa relation à l'adulte.
Bien sûr. Est-ce que tu vois d'autres fausses croyances qu'on a vis-à-vis des enfants et qui notamment nous permettraient de mieux comprendre qu'il y a des différences importantes entre leur perception du monde et le nôtre ? Tu as parlé notamment de la manipulation. Est-ce que tu vois d'autres gros clichés à ce sujet ?
Alors, il y a un cliché que je vois qui est très, très répandu et qui, pour le coup, nuit vraiment à la relation adulte-enfant. C'est notre tendance qu'on a à penser que les enfants nous veulent du mal. Alors, tu vois, ça, c'est vraiment très, très fort. Mais alors, c'est vraiment très fort, et ce, depuis la naissance. C'est-à-dire qu'on a tendance à croire qu'ils nous manipulent, qu'ils veulent nous nuire, qu'ils veulent s'opposer à nous, qu'ils veulent... tu vois, comme si ça avait une démarche un peu malveillante. Enfin, c'est vraiment ce que je vois. Enfin, moi, sur le terrain, c'est ce que les parents et les professionnels me disent beaucoup. Et ça va même jusqu'à... Enfin, chez les petits, mais plus tard aussi dans la vie, en fait. Et en fait, voilà, on va leur attribuer un peu des pensées malveillantes à notre égard. Genre, il m'a fait une colère, il fait ça contre moi. Enfin, il fait exprès pour me pourrir la vie. Enfin, je fais caricature, mais c'est vraiment ce que je ressens, moi, sur le terrain. Et en fait, ça part du principe que l'être humain, du coup, on imagine que l'être humain, à la base, il est pas bon, il est malveillant. Et que plus il grandit, bah plus cette malveillance, il la garde en lui. Et c'est vrai que beaucoup de collègues, hein, beaucoup même de psychologues pensent ça aussi, donc c'est assez intéressant. Et en fait, quand on regarde un peu du côté de la recherche scientifique, est-ce que l'être humain en soi, il est pas bon, il est venu nuire à l'autre, il est malveillant? On remarque que c'est tout le contraire. Au contraire, on remarque et on constate dans les recherches, alors là, chez le très jeune enfant, hein, mais c'est la base de l'enfant plus âgé, on remarque qu'ils ont une prédisposition au sens de la moralité et au sens de l'empathie. Et en fait, ce sont des prédispositions qui sont utiles à leur survie sur un plan très évolutionniste. Pourquoi ? Parce que l'être humain, en bas âge, il est extrêmement dépendant de l'adulte. Et donc, pour qu'il puisse bénéficier de la gentillesse de l'adulte, de la tendresse de l'adulte, de l'empathie de l'adulte, de la présence de l'adulte, il faut bien qu'il ait des compétences de base prosociale très importantes. C'est-à-dire que on a un instinct grégaire, on est fait pour vivre en meute, en communauté, dès le début de la vie. Surtout le bébé qui est ultra dépendant. Donc, ces compétences-là lui servent, en fait, à rester près d'adultes. Donc, c'est une des croyances, par exemple, qui est très clairement aujourd'hui démontée par la recherche depuis pas mal de temps, hein, par les courants en neurosciences, en psychologie du développement, l'évolutionnisme, mais qui reste encore très imprégnée dans notre culture générale de l'enfance. Hein.
Et ça me fait penser également à un sujet évidemment qui est très médiatisé, donc on va pas y passer trop de temps, mais c'est sur la punition en dehors des études qui prouvent que c'est pas favorable au développement de l'enfant. Je pense que ça prouve aussi cette incompréhension qu'on a vis-à-vis du monde des enfants, où on pense qu'un enfant va bien comprendre une punition, Alors que de ce que je comprends, et peut-être que tu vas nous éclairer là-dessus, ce qui est compliqué dans la punition, c'est que souvent, même quand on va dire à son enfant « va t'asseoir sur la chaise à réfléchir pour réfléchir », à un certain âge, l'enfant n'a même pas cette capacité-là à réfléchir aux conséquences de ses actions.
Oui, alors c'est vraiment ce que tu dis, il y a plein de choses intéressantes et je vois deux choses majeures. La première situation, c'est marrant parce que j'ai introduit justement ma BD, ma vie d'enfant, par cette situation où le petit garçon, il est puni sur le banc réfléchir dans la classe et se dit mais c'est quoi ce banc réfléchir, ça sert à quoi? Et puis là, il se gratte le nez, il pense à autre chose, ou alors il est frustré d'avoir été puni, mais il fait tout sauf réfléchir. Et c'est vraiment, un fantasme d'adulte que de penser que les enfants qui vont sur une chaise réfléchir ou un banc réfléchir vont vraiment réfléchir. Enfin, c'est vraiment un fantasme d'adulte, mais c'est rigolo. Alors, et l'autre chose sur laquelle je voulais rebondir, cette idée, en fait, effectivement, on a une culture française, déjà. Faut savoir qu'on a une culture, nous, française, de la punition. De manière générale, on a quand même une culture de la violence à l'égard de l'enfant en France, quelque chose qui est installé dans notre culture générale. Et on a une culture de la punition. C'est-à-dire qu'on pense vraiment, beaucoup pensent que la punition va permettre aux enfants de modifier et d'améliorer leur comportement. Alors, pourquoi on est venu à penser ça? Parce qu'en fait, on regarde l'enfant avec un regard un peu pavlovien. C'est dans Pavlov, en disant, voilà, s'il y a un stimulus négatif, on apporte une conséquence négative, boum, ça va venir baisser le stimulus négatif, enfin, ça, le comportement négatif. Donc, un peu comme si c'était le chien avec, voilà, on imagine l'électrochoc ou la croquette pour venir modifier son comportement. Comme si la vie est aussi simple que ça, en fait. Comme si la vie est aussi simple qu'une action de comportement et conséquences. Et en fait, dans les recherches, alors sur le comportement, sur l'éducation, on voit que c'est beaucoup plus complexe que ça. On voit que le cerveau est beaucoup plus complexe que ça et que la vraie vie est beaucoup plus complexe que ça. Et en fait, on voit qu'au contraire, que quand un enfant a un comportement qui est inadapté, genre par exemple l'enfant il tape sa sœur, l'enfant il se roule par terre, l'enfant voilà il peint le mur du salon, si on lui apporte une punition, ça n'a pas d'effet en fait sur son comportement à moyen et long terme. Pourquoi? Parce que la punition, on voit bien que déjà progressivement elle perd son effet dissuasif, c'est-à-dire que pour qu'elle soit impactante, il faudrait qu'elle soit de plus en plus forte. Donc, des violences de plus en plus fortes, ça veut dire ça. C'est-à-dire, mais où va-t-on? Normalement, ça veut dire un peu de climat, de sérénité dans le climat familial. Petit 2, on voit qu'elle tend, quand elle se répète, hein, à nuire à la relation entre l'adulte et l'enfant, que ce soit l'enseignant, enfant, ou le parent et l'enfant. On voit aussi qu'elle fait, du coup, alors elle perd son effet dissuasif, elle tend à dégrader la relation entre l'adulte et l'enfant, mais aussi, surtout, elle tend à augmenter le niveau de frustration et de stress de l'enfant. Or, plus un enfant est frustré, plus il se sent victime d'injustice, plus il est stressé, qu'est-ce qui risque d'arriver de manière absolument objective? Eh bien, ça va augmenter le niveau de stress et augmenter, du coup, la probabilité qu'il ait des comportements inadaptés. Ça va augmenter aussi son impulsivité, ça va augmenter son rapport de force avec l'adulte. Donc finalement, là, on se tire direct une balle dans le pied. Vraiment, si on regarde ça de manière très, très objective. Et puis surtout, l'un des grands inconvénients majeurs de la punition, c'est qu'elle n'apprend pas à l'enfant à agir autrement. Et donc là, on ne fait que mettre un peu un couvercle sur une casserole de lait bouillante, on ne va pas apprendre à l'enfant à faire autrement. C'est-à-dire qu'au lieu d'apprendre, au lieu de punir l'enfant quand il arrache des mains le jouet de sa sœur, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt lui apprendre à demander à sa sœur le jouer? Si elle refuse, elle refuse, on trouve une autre solution. Mais en tout cas, on demande à l'enfant, on lui montre quel comportement l'attend de lui. Et ce qui marche le plus, c'est ce qu'on voit dans les recherches, c'est que quand l'enfant a le bon comportement, on met le paquet dessus et on abuse vraiment de ce qu'on appelle des représentateurs sociaux. On dit « Oh, mais regarde, c'est super ce que tu as fait, regarde. Ah, t'as donné le jouet, là vous êtes en train de jouer ensemble, mais en plus, regarde, elle sourit, elle est contente, vous passez un bon moment, mais t'as vu, c'est génial ce que t'as fait. La prochaine fois, tu recommences, et la prochaine fois, quand il recommence, encore, on l'encourage. Donc, il vaut mieux renforcer les comportements adaptés que de punir les comportements inadaptés. Mmh. Après, pour finir ce point-là, on peut punir de temps en temps, c'est pas grave, la punition fait partie de la vie. Enfin, moi-même, des fois, je sais pas comment faire autrement, je fais des genres de punitions déguisées, c'est nul, en tant que parent, je sais bien que c'est nul, mais sur le moment, je le fais parce que j'ai pas le choix, parce que je sais pas comment faire autrement. Mais la punition devient défavorable quand elle est répétée, en fait. Mmh. Surtout quand elle s'inscrit dans une dynamique de parentalité punitive et répressive. Donc voilà, donc aussi, il faut apporter beaucoup de nuances à ces discours-là.
C'est pas... Bien sûr. Bien sûr. Et il y a une autre manière de mieux comprendre ces enfants et leurs différences par rapport à nous, c'est leur fonctionnement émotionnel. Est-ce que tu pourrais revenir sur les grandes lignes de ce qui différencie les enfants des adultes sur leur fonctionnement émotionnel?
Alors en fait, ça, c'est une vraie, vraie question qui nous pose tellement de soucis à nous, et moi la première, en tant que maman, c'est très compliqué. Effectivement, on voit que, en fait, de manière générale, on sait que plus le cerveau mature, là c'est vraiment de la neuroscience, hein, plus le cerveau mature, plus les aires frontales qui sont censées réguler ces espèces de flux émotionnels qui nous traversent en permanence seront matures, donc plus les émotions sont régulées. Ça c'est en théorie. Donc vraiment, normalement, un enfant de 6 ans régulera mieux ses émotions qu'un enfant de 2 ans, un enfant de 10 ans régulera mieux ses émotions qu'un enfant de 6 ans. Voilà, ça c'est quelque chose de logique. Et un adulte de 40 ans devrait normalement réguler mieux ses émotions qu'un enfant. Ouais, c'est pas toujours le cas, mais... Et donc du coup, effectivement, plus l'enfant est jeune, plus ses émotions seront fortes, mal régulées, plus il aura du mal à relativiser, et relativiser, c'est une compétence qui arrive tellement tardivement dans l'âge, plus il aura du mal à prendre du recul par rapport à son émotion, plus il aura du mal à comprendre l'impact de ses manifestations d'émotions sur son comportement, sur les autres, tout ça. Donc finalement, plus l'enfant est jeune, et plus c'est compliqué sur le plan du fonctionnement émotionnel. Donc plus ses parents sont en difficulté et voilà. Donc généralement le temps vraiment fait son œuvre et plus le temps passe, plus ça va. Mais pour quand même pour aider notre enfant à mieux réguler ses émotions, c'est un travail de longue haleine, c'est un peu tous les jours. Hein. Mais en fait l'objectif premier, c'est que quand un enfant est en émotion lui-même, il est en colère, l'autre objectif en tant que parent et le plus dur, c'est de nous-mêmes rester calmes, c'est-à-dire nous-mêmes faire preuve de régulation des émotions. Si le parent il vrille et dégoupille, mais comme ça arrive à chacun de nous, hein, dès que l'enfant est en émotion, ça n'aidera pas vraiment à l'enfant à réguler ses émotions plus tard, en fait. Mais c'est hyper complexe, en fait, comme système. C'est très interactionniste entre le parent et l'enfant, finalement.
Parce que peut-être que tu peux revenir sur à quel point aussi les enfants se construisent leur perception du monde par rapport à ce qu'ils ont comme exemple avec leurs parents et les adultes qui les entourent.
Oui, alors ça c'est vrai que c'est important de préciser, mais on oublie à quel point les adultes qui entourent l'enfant sont les modèles sociaux de ses enfants. C'est-à-dire que, alors, il y a une base d'inné, bien sûr, mais on ne sait pas à quel point l'inné, parce que de toute façon, très rapidement, l'adulte va impacter l'enfant. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, le cerveau est très peu mature à la naissance et qu'il va se développer en très, très, très grande partie dans la vie extra-utérine. Donc, quand il sera né, donc après sa naissance et dans les années qui suivront. On sait aussi que le cerveau est très plastique dans les premières années de la vie. Il est plastique toute la vie, mais il sera un peu moins par la suite. Donc, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que l'enfant va effectivement être perméable à l'environnement qui l'entoure et aux adultes qui interagissent avec lui le plus régulièrement possible. Donc, les personnes, ses parents, ont un impact énorme, sont les modèles de leurs enfants, mais aussi les enseignants, les professionnels de crèche, les ATSEM, qui passent énormément de temps aussi en interaction privilégiée avec les enfants. Donc, tous ces adultes-là, les tontons, les tatas, les grands-parents, vont avoir un impact sur les enfants. Un impact, alors, en quels termes? En termes, déjà, de rapport aux autres, tout ce qui est convention sociale, en termes de régulation du comportement, en termes de régulation des émotions. Donc, finalement, les adultes ont beaucoup plus d'impact qu'on pourrait le penser. Là, il y a plein de membres, il y a plein de pros et plein de parents qui me disent toujours, mais j'ai l'impression que c'est des mini-moi, parce qu'ils répètent mes phrases, ils font ce que je dis. Des fois, je dis de ne pas crier sur son frère, mais moi, je crie sur mon conjoint, donc ça me met mal à l'aise. Ils répètent des mots que je rapote quand je dispute avec mon conjoint. Donc, c'est drôle de voir finalement que ils absorbent quand même une grande partie de ce qu'on est et de ce qu'on fait avec eux, en fait.
Qu'est-ce qu'on sait, justement, sur la part d'inné et d'éducation qu'il y a dans la construction des enfants?
Ça, c'est très compliqué, en fait. Ça, c'est un débat, je pense, qui sera sans fin. Alors, justement, toi, dans ce que je dis, il y a un point qui est intéressant, qui soulève une problématique, même une polémique qui est très vive en France, c'est de dire, oui, ces enfants tyrans. Alors, on parle beaucoup d'enfants tyrans, c'est à cause des parents qui sont complètement laxistes, permissifs. Voilà. Bon, alors qu'on sait qu'en France, quand même, selon l'observatoire qui a été réalisé par la Fondation de l'Enfance, 79% des parents recourait régulièrement à une violence éducative ordinaire. Donc du coup, on n'est pas un pays permissif, on n'est clairement pas un pays laxiste, on est un pays où il y a beaucoup de parents paumés, moi la première, je suis d'accord, mais on n'est pas vraiment pas un pays permissif. En tout cas, ce qu'on observe, c'est que beaucoup disent, voilà, cet enfant, il est tyran à cause de ses parents qui mettent pas ses limites, à cause de ses parents qui sont trop laxistes. Mais en fait, faire attention avec ces discours-là, parce que là, on met tout le comportement de l'enfant sur l'éducation et rien, mais rien, sur son profil développemental ou neurodéveloppemental. Or, là, il y a une grande erreur à ne pas faire, c'est que l'enfant, c'est de l'acquis, bien sûr, c'est de l'éducation, mais l'enfant, c'est aussi un profil neurodéveloppemental. On sait, par exemple, les enfants qui sont nés prématurément, on sait que les enfants qui sont nés avec un petit poids, un RCU, hein, un retard de croissance intra-utérin, on sait que les enfants qui ont un des parents, par exemple, qui a lui-même un TDAH, donc un trouble déficitaire de l'attention avec une hyperactivité ou sans hyperactivité. Voilà, tous ces enfants-là peuvent avoir un profil neuroatypique. Et un neuroatypique, c'est quoi? Parmi les profils neuroatypiques, on peut avoir des enfants qui ont un TDAH, donc une vraie hyperactivité. On lit vulgairement hyperactivité, hein, mais c'est un TDA avec ou sans H, avec ou sans hyperactivité. Et en fait, ces enfants-là, eh ben, ils ont des comportements qui manquent de régulation, ils ont du mal à se poser, ils ont du mal à se conformer au cadre de l'adulte, ils ont du mal à gérer leurs émotions, ils ont du mal à rester assis sur une chaise, ils ont du mal... Et en fait, ces enfants-là, quand on regarde bien, ils ont tous les comportements qu'on pourrait retrouver chez l'enfant qu'on appelle tyran dans le commun des mortels, dans le grand public. Alors, et du coup, ce qui est horrible pour la famille et ce qui est horrible pour l'enfant, c'est qu'on vient stigmatiser cet enfant-là et ses difficultés en mettant tout sur le dos des parents, alors que ça se trouve, il a une vulnérabilité neurodéveloppementale et qu'il a juste besoin d'aide, en fait, et d'accompagnement, ouais. Plus de jugement. Et ses parents aussi. Parce qu'être un parent d'enfant avec un TDAH, et j'en ai beaucoup dans mon entourage professionnel et personnel, c'est super difficile.
Ouais.
Plutôt que de juger ses parents-là, mais accompagnons-les, en fait. Apportons-leur de notre humanité et notre empathie. C'est vraiment très important, je pense.
Bien sûr. Il y a quelque chose aussi qui m'intéresse beaucoup sur la différence dans notre compréhension du monde entre les enfants et les adultes, c'est toutes ces dispositions spontanées, donc c'est André Stern qui utilise cette expression, que les enfants ont et que l'on perd souvent beaucoup à l'âge adulte et qui sont pourtant tant universelles chez les enfants. Alors lui, il parle notamment d'enthousiasme, de non-jugement. Est-ce que toi, tu en vois d'autres et qu'est-ce que tu as à dire d'un point de vue psychologique sur ces différences entre les adultes et les enfants ?
Alors c'est vrai que j'en vois quelques-unes, c'est très intéressant de comparer le profil enfant et adulte. Alors les enfants ont une chance, après tout est relatif, mais de s'inscrire souvent dans le moment présent. Mais plus ils sont jeunes, plus ils sont à 100% dans le moment présent. Ils sont dans un rapport dans le moment présent et l'immédiateté et le plaisir. Et en fait, il y a un rapport comme ça, ce qui sans doute en fait alimente leur enthousiasme, mais ils ont vraiment un rapport au moment présent que nous, adultes, on n'a plus. Parce que nous, enfin toi et moi, on est souvent dans le passé, dans le futur, on se met des questions, on anticipe tout, on flippe par rapport à demain. Alors que l'enfant, alors pas trop âgé, parce que plus ils grandissent, plus ils sont dans cette... d'anticipation un peu de la suite, mais plus l'enfant est jeune quand même, plus cette capacité à être dans le moment présent, ce que nous n'arrivons même plus à faire. Il faut qu'on médite pour retrouver cette disposition du moment présent. Moi, c'est vraiment l'une des grandes différences que je vois chez l'enfant et qui alimente du coup forcément l'enthousiasme et le plaisir immédiat, en fait, ce que nous-mêmes on n'a plus. En tant que des avantages aussi des inconvénients, parce que ouais. Si toi et moi on était que dans le moment présent, que dans le plaisir et l'immédiateté, je veux dire, au bout d'un moment on pourrait plus travailler, on pourrait... un petit peu de tout dans un monde aussi.
Ouais. Est-ce que tu vois d'autres choses qu'on n'aurait pas évoquées sur cette différence de perception du monde entre les enfants et les adultes, puisqu'on arrive bientôt à la fin de l'épisode? Est-ce que tu vois d'autres choses importantes à partager à tous nos auditeurs pour mieux comprendre les enfants?
Alors, d'autres différences de fonctionnement entre l'adulte et l'enfant, autre que ce qu'on a abordé jusqu'à maintenant. Alors, la notion de bienveillance, on l'a abordé. La compréhension du monde. Je dirais cette forme de... Non, on l'a abordé également. J'ai dit cette forme de naïveté un peu sociale qu'ont les enfants. Tu vois, ils ont du mal parfois à percevoir le danger, à percevoir la malveillance d'autrui. Et ce qui est intéressant de voir, et ça m'a toujours beaucoup touchée de voir ça sur le terrain, dans les familles et chez les professionnels, c'est pareil. Mais tu vois, c'est... Enfin, quelle que soit la manière dont on traite un enfant, il va nous apporter toujours son attachement et un peu son amour inconditionnel. Alors quand il est jeune, quand il vieillit, il commence à prendre du recul et se dire ah, c'est pas normal ce qu'on me fait. Mais quand ils sont jeunes, ils ont cette capacité, cette tendance à nous aimer de manière vraiment inconditionnelle, quel que soit le moyen dont on les traite. Alors que nous adultes, on a un rapport à l'autre qui est beaucoup moins naïf et ouais, on a beaucoup plus de jugement, d'esprit critique, de prudence par rapport à autrui, ce qui est beaucoup moins le cas des enfants. Après, on a des enfants aussi avec des anxiétés sociales importantes, qui ont peur d'autrui de manière générale, mais néanmoins, ils vont avoir cette confiance quand même à l'adulte qui, s'ils ont un attachement sécure, qui est intéressante, mais qui peut aussi être vulnérabilisante. En tout cas, qui est distincte vraiment de l'adulte lui-même avec les autres adultes.
Est-ce qu'il y a des choses d'un point de vue éducatif, d'un point de vue de communication, pour se mettre encore mieux à hauteur d'enfant?
Les grandes lignes, c'est que souvent que je communique aux familles pour les aider, les accompagner un peu dans leur parentalité. Alors vraiment, petit 1, c'est déjà se lâcher prise. Vraiment lâcher prise, je pense que c'est la principale ligne à communiquer vraiment à grande échelle. Lâcher prise en termes d'attente, en termes d'attente de comportement, en termes d'attente de régulation des émotions, en se disant que c'est long. Enfin, vraiment l'intelligence de l'enfant se construit de manière très lente pour se rapprocher de celle de l'adulte. C'est pas que le jeune enfant est moins intelligent, c'est qu'il a l'intelligence qui est différente de celle de l'adulte. Donc il a un potentiel d'apprentissage que nous on n'a pas, clairement. Il peut apprendre des sons de langue, il est polyglotte quand il est tout petit. Enfin, voilà, il a un potentiel qu'on n'a pas, mais il a une compréhension du monde vraiment collective ou sociale qui est beaucoup moins évoluée que la nôtre. Donc vraiment lâcher prise en termes de ces attentes-là spécifiquement parentales. L'autre ligne que je pourrais préconiser, vraiment conseiller aux familles, c'est que quand l'enfant a un comportement qui ne lui convient pas, et ce qui arrive tout le temps à tous les parents, c'est au lieu de se dire comment je vais pouvoir le punir, comment faire pour pas que ça recommence, on va se demander mais qu'est-ce que je voudrais que mon enfant fasse à la place comme comportement. Et on va lui montrer comment faire, et on va le guider là-dedans, et quand il le fera, on va vraiment l'encourager. On a tous et toutes un biais de négativité, c'est-à-dire que notre cerveau, notre raisonnement est plus sensible aux éléments négatifs de nos enfants, de tout d'ailleurs, qu'aux éléments positifs. Donc l'idée, c'est d'essayer de renverser un peu cette tendance-là, même si c'est vachement dur, parce que c'est hyper rapide, et de se focaliser vraiment sur ce qu'ils font de bien, et les encourager quand ils font quelque chose de bien. Ne serait-ce que pour améliorer la relation adulte-enfant et pour limiter du coup les rapports de force dans la relation. Je dirais que c'est les deux principaux. Et c'est qu'à il n'a que 5 ans, il n'a que 7 ans et qu'il a encore un... C'est pas parce qu'il fait ça à 7 ans qu'à 40 ans, il fera encore la même.
Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça.
Il y a des confiances en l'enfant.
Ouais, ouais. Je pense aussi ce qui est difficile sur l'éducation des enfants, c'est qu'on a tendance à tirer vite des conclusions sur leur comportement. Et qu'en effet, on va se dire parce qu'il fait beaucoup de colère à 3 ans, ça va être un adulte très colérique.
Ouais, complètement. C'est vrai que c'est très dur. On a tendance à faire les étiqueter, à les stigmatiser très tôt. En même temps, ce jugement-là, il est hyper intuitif et hyper spontané, hyper humain, en fait. C'est juste qu'il faut essayer de sortir de ce jugement-là et de se dire que tout est évolutif. Vraiment, un enfant, on sait que le cerveau est mature vers 25 ans en moyenne. Alors, c'est la louche, hein, y a une très grande variabilité inter-individuelle. Mais on sait que l'enfant, en tout cas, à 7 ans, ne sera pas l'adulte qui sera demain. Donc, vraiment, il y a plein de choses à apporter et nous-mêmes, quand on voit dans les recherches que plus le style parental est démocratique, c'est-à-dire non violent, qui est posé, bienveillant, c'est-à-dire qu'il est cadrant mais non violent, et plus l'enfant se développe bien, plus il est moins, il a d'anxiété, plus il est épanoui en société, plus il se fait des copains facilement. Donc finalement, vraiment, l'enfant qui est là aujourd'hui n'est pas l'enfant qui sera là vraiment dans... Ne jamais oublier cette dynamique-là. Et nous-mêmes, par notre bienveillance, on peut améliorer la trajectoire développementale des enfants. Rien n'est figé. Et le cerveau est plastique, et même quand les enfants ont une neuroatypie, le cerveau est plastique aussi. Donc, elle est figée, en fait.
Merci beaucoup, Héloïse, pour tout ça. J'ai une question rituelle maintenant dans le podcast. Qu'est-ce que tu souhaiterais aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain ?
Je souhaiterais de mieux comprendre les enfants qu'on le fait nous-mêmes, d'avoir une meilleure compréhension, et je pense vraiment, je compte sur eux, mais je pense que ce sera le cas, qu'ils éduqueront mieux leurs enfants que nous-mêmes, on les a éduqués.
Oui.
De mes filles, j'espère, et je pense que c'est le cas de tous nos enfants. Parce que plus on essaie de casser un peu, limiter cette transmission un peu des violences dans les familles, plus les enfants sont mieux éduqués. Donc je pense qu'ils seront des super parents.
Et merci pour tout, Héloïse, et bravo pour tout ce que tu fais.
Merci beaucoup. À la prochaine.
À la prochaine. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcasts. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, Je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclés.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.